Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'accueillir un nouvel invité. Vous savez maintenant, quand vous me voyez dans ce canapé bleu, c'est qu'il y a une interview qui suit. Et puis bah, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est un très bon pote que j'accueille ici. Et puis, bah, c'est un ami avec qui j'ai eu la chance de partager ma passion du basket d'abord, puis ensuite la psychologie par la suite. Donc aujourd'hui, on accueille Mathieu Golano, qui est psychologue du travail, spécialisé en psychologie d'urgence également. Il a aussi son cabinet à côté où il fait de l'accompagnement individuel. Donc il y a pas mal de choses à discuter avec lui. Puis on n'a jamais eu cette spécialité encore sur le podcast. Donc Mathieu, ben, bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai dû travailler au corps pour que tu acceptes.
C'est toutes ces demandes, toutes ces sollicitations.
C'est ça. Je t'avais proposé il y a un an et demi, je pense. Mais c'est cool parce que ben, on n'a pas du tout eu de psy d'urgence. J'ai eu déjà plusieurs psys sur le podcast. Bah, ça m'intéresse peut-être que tu présentes un petit peu ton parcours et puis ensuite on va aller un peu plus en profondeur là-dedans.
Ok, alors avec plaisir. Donc j'ai été formé en psychologie à l'université de Lausanne et je me suis spécialisé, comme tu le disais, en psychologie du travail. C'est un master qui existe pour l'instant uniquement à Neuchâtel, psychologie du travail et des organisations. Et peu après avoir terminé ce master, j'ai fait une spécialisation en psychologie d'urgence. Donc, tu peux accéder à cette spécialisation-là une fois que tu as ton master. Il te demande un petit peu d'expérience, mais je connais certaines personnes qui ont accédé rapidement après leur master. Et cette spécialisation, c'est une formation d'un an qui te permet de travailler directement en tant que psychologue d'urgence, comme par exemple dans une cellule de crise, et puis on pourrait en parler tout à l'heure. Cette spécialisation de psy d'urgence, je l'ai depuis... J'ai démarré en 2017, donc là, ça va faire... bientôt 7 ans que j'ai démarré ça. Mmh. Et ça m'a permis d'ouvrir des nouvelles portes au niveau du job. Donc, dans mon job préexistant, puis bon, dans mon autre job que j'ai démarré il y a un an et demi maintenant dans une entreprise.
Mmh. Voilà. Donc ça, alors on va le mentionner, on ne va pas creuser ça. Donc maintenant, ouais. Tu travailles pour la cellule psy d'urgence du canton, dans les écoles, c'est ça?
Oui, alors maintenant, j'ai une activité un petit peu mixte. Donc, j'ai un employeur... à 50%, donc c'est l'objectif de cette partie-là, c'est d'offrir un accompagnement d'urgence pour les écoles du canton. Mmh. Les écoles du canton ont une structure, une cellule de crise au cas où il se passe un événement critique, et puis on est deux à coordonner tout ça pour le canton. Et puis à côté, comme tu le disais, j'ai une activité indépendante, donc un cabinet à QI, et à côté encore, il y a des participations à des cellules de crise, donc je suis inscrit et je fais partie de deux cellules de crise. Il y en a une qui fait partie de la police de Lausanne. Mmh. Donc, on est des psychologues d'urgence pour la police de Lausanne. Quand on dit ça, souvent, ça peut prêter à confusion parce qu'on croit qu'on peut intervenir pour les policiers. Policiers, bien sûr, mais en fait, on est appelé plutôt par les policiers pour les civils, les citoyens, si tu veux, qui viennent de vivre quelque chose de difficile. Mmh. Et l'autre cellule, c'est... Finalement, c'est un petit peu la même chose, mais c'est pour le canton. Donc, il y a la cellule pour la police de Lausanne et la cellule pour le canton.
Donc, ça, c'est plus c'est la gendarmerie qui te contacte?
Là, ou... c'est via la PC.
D'accord, ouais.
Parce que ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est que quand c'est une cellule de crise à l'échelle du canton, bah, c'est souvent des situations qui ont une ampleur, de par le nombre de personnes impliquées, qui est plutôt importante. On parle de situations macro. Et là, bah, voilà, ça appelle et ça sollicite tout un nombre de personnes importantes. En termes de logistique, donc c'est géré par la PC.
Mmh. Ouais. Donc PC, protection civile.
Exactement, pardon.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent avec ouais. Renaud de Vargas.
Avec toutes les stars de la PC.
Décidément, on en parle pas mal. Mais ça, c'est typiquement... quel type d'événement t'es peut-être amené à couvrir en tant que psy d'urgence?
Alors, bah, dans la littérature en psy d'urgence, on parle d'événements critiques. Par le passé, enfin, après, bah, y a des habitudes, hein, des réflexes, bien sûr, différents de personne en personne, mais avant, on parlait d'incidents critiques. Je pense que c'est sans doute parce qu'on traduisait de l'anglais, tu sais, critical incident, désolé pour l'accent, Mais on avait simplement traduit ça en incident critique. Puis c'est vrai que selon ce qui se passe, tu vois, quand on parle peut-être d'un décès ou d'une situation visuellement assez impressionnante, mentionner un incident, en français c'est un peu minimisant comme ça, c'est vrai, suite à cet incident, c'est comme si c'était passé une petite chose, quoi. Donc de plus en plus on parle d'événements critiques ou de situations critiques, comme ça enlève la connotation de la taille, si tu veux. Et une situation critique, un événement critique, c'est une situation qui est hors norme, imprévue, qui vient solliciter une surstimulation sensorielle ou émotionnelle. Et en général, très souvent, il y a une confrontation à la mort qui a lieu, qu'elle soit réelle, donc si la mort est présente, ou imaginée, tu vois, comme si, voilà, suite à ce qui s'est passé, une seconde, même si c'est une fraction de seconde, une pensée, je me suis vu mourir, j'ai imaginé quelqu'un qui pourrait mourir dans cette situation-là. Donc réel ou imaginé, on va dire.
Et donc ça, c'est vraiment juste après cet événement, tu es contacté si tu es de piquet avec la cellule de crise.
Exact.
Et puis tu arrives en fait après la police, mais pas longtemps après. Et ça ressemble à quoi ce genre de prise en charge?
Alors, ce que tu dis, c'est exactement ça. Si tu veux, il se passe quelque chose. Puis après, il y a le temps qui passe, hein, qui passe même drôlement vite. T'as les personnes qui peuvent faire appel peut-être à la police ou au métier d'urgence, souvent c'est la police bien sûr. La police fait ses premières actions d'intervention et à un moment donné, selon l'état de choc de la personne, la police peut proposer l'intervention d'un psychologue d'urgence ou d'une psychologue d'urgence et puis en fait on intervient seulement si la personne accepte. Déjà, ça c'est une première porte d'entrée importante parce qu'on va pas coller ou imposer une personne à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, surtout quand on parle de psychologie. Et puis pour nous, c'est une porte d'entrée de nouveau, je répète ce terme, mais intéressante parce que tu vois, quand on se présente, on est un inconnu, on se présente à quelqu'un qui a accepté déjà notre aide, quelque part. Donc, il faut que la personne accepte cette aide-là. Ensuite, ça passe par la centrale, tu vois, on est mobilisé. Et après, on nous demande de pouvoir se déplacer dans la demi-heure. Donc, tu vois, rien que là, il peut vite se passer 1 heure, peut-être même un peu plus, entre le moment où la personne vit quelque chose et le moment où le soutien d'urgence arrive, le soutien psychologique arrive. Ouais.
Et puis un soutien d'urgence, ça prend un peu quelle forme?
Une part qui est un petit peu particulière, c'est que de toute façon, toi, tu arrives avec un petit peu ton expérience, ta théorie, tes informations, tes conseils et puis tes bonnes pratiques. Mais tu dois de toute façon aussi te préparer un peu à l'imprévu parce que t'entends dans les très grandes lignes, vraiment comme si c'était presque un tweet, quoi. Enfin, je veux dire, un beeper. Il s'est passé ça dans telle situation, dans telle adresse. La personne accepte et demande de l'aide. Toi, t'arrives. Déjà, tu dois finir ce que tu étais en train de faire. Tu vois, c'était en train de cuisiner, faire ton sport. Enfin, je veux dire. T'es en train de faire ta vie, t'es pas en train d'attendre le téléphone. Tu finis ce que t'es en train de faire, tu te prépares, t'y vas, et puis là déjà t'es en train peut-être d'imaginer le type de personne que tu vas pouvoir rencontrer, selon le quartier, selon l'âge, selon le nombre de personnes impliquées. T'as déjà ton imaginaire qui t'envoie quelque part. Et même en tant qu'intervenant, des fois tu peux être surpris de te dire, oh, j'ai pas du tout imaginé ça, je pensais pas que ça allait être encore en plein dedans. Parfois il y a la police judiciaire qui est encore en train de faire son enquête, donc. Déjà, juste la scène peut venir te perturber toi en tant qu'intervenant. Donc, c'est un conseil qui n'en est presque pas un aussi, mais tu dois, en tant qu'intervenant, souvent et beaucoup te préparer à l'imprévu, quoi. Donc, avoir des grands principes de ce que tu peux amener, mais être prêt à être un petit peu aussi bousculé dans ton setting, on va dire. Ouais.
Mais tu dois être vachement flexible sur comment adapter la chose.
Clairement, ouais.
Et Dieu sait si en psychologie, on nous bassine avec le setting
Ouais.
qui est si important, alors qu'il peut l'être, mais je trouve que, en tout cas dans les études, j'ai toujours trouvé que c'était très rigide ce qu'on nous passait. Donc là, c'est plus de la flexibilité qui est requise.
Ouais, clairement. Et puis tu dois t'adapter à l'autre, mais tu dois pas non plus tout plier, tout casser, tout oublier pour l'autre, parce que justement, dans ces sujets émotionnels forts et impressionnants, il faut aussi pouvoir bien être au clair avec tes propres limites à toi pour que le lien, l'échange convienne aux deux, tu vois. On va pas s'oublier puis tout donner pour l'autre, mais en même temps, tu vas pas t'écouter que toi non plus pour accompagner l'autre. Et bah, cette flexibilité, parfois, elle est un peu frustrante parce que souvent, les gens peuvent te demander, bah, du coup, tu dois dire quoi? Quelles sont les questions à poser, les questions à pas poser? Bah, même là, moi, je sais pas répondre parce que tu vas devoir t'adapter à la personne. Tu vois, y a pas, c'est pas comme si j'arrivais avec un cadenas de 8 questions à poser pour baliser l'accompagnement de la personne. C'est très, très ouvert, quoi.
Oui, puis ben, j'imagine qu'il peut y avoir tous les types de réactions, autant des personnes qui sont ingérables que d'autres qui sont, je sais pas, sous le choc complètement et puis qui bougent pas, qui disent rien. Enfin, donc c'est clair, tu peux pas arriver avec un truc super formel. Comment toi tu fais après l'intervention pour te détacher un peu de ça? Parce que ça, c'est un truc. Dans le métier de la psychologie, on doit savoir faire pour couper, pour se protéger un peu émotionnellement aussi de ce qu'on entend. Là, toi, c'est encore peut-être plus impactant parce que, un, c'est des situations choquantes, puis ça vient d'arriver, donc en termes d'émotion, c'est assez fort. En plus, tu vas sur les lieux. Comment est-ce que tu as des routines? Ou je sais pas comment tu fais pour un peu couper avec ça.
C'est une bonne question parce que c'est vrai que tu peux pas te faire happer non plus et puis après changer toute ta manière de vivre parce que tu as été peut-être pollué par une situation qui est réelle mais qui est quand même assez rare et unique, tu vois, extraordinaire pour le coup. Et moi, ce qui m'aide, alors de nouveau, on est peut-être tous différents, mais ce qui m'aide, c'est ça peut paraître bête, mais c'est le trajet du retour. Parfois, il est très court parce que tu vois, c'est quelques kilomètres. Hein. Je veux dire, c'est dans la zone Lausanne, donc c'est parfois très court. Mais moi, il m'aide ce trajet. Tu vois, c'est un moment où je me déconnecte, je mets un album que j'aime bien, je mets voilà cette musique, je roule un peu plus lentement. Parfois, c'est aussi des situations qui arrivent au milieu de la nuit, donc c'est un moment un peu suspendu où tu roules, t'es un peu tout seul sur la route, t'as ton album. Et puis moi, c'est un moment qui me fait du bien parce que c'est vrai que souvent, c'est des situations qui peuvent vite prendre quelques heures. Donc, tu sais, tu peux vite avoir le réflexe de se dire, bon, allez, je regarde mon téléphone, WhatsApp, etc. Je contacte un petit peu toutes les situations qui sont, enfin, les situations, les conversations qui sont sur pause. Puis là, je reporte juste ça d'une demi-heure, puis je m'offre cette bulle-là de temps, en fait, juste pour moi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est peut-être anodin comme exemple, mais c'est vraiment de me dire, quand je rentre chez moi, pour le coup, bah, je suis pas sûr que cette phrase soit très juste, mais en tout cas, c'est celle que je me dis. C'est je vraiment c'est comme si je me disais bah je retrouve la réalité ou en tout cas ma réalité, tu vois. Quand je retrouve ma famille ou bien quand je retrouve des petites engueulades du quotidien qui sont essentielles une fois, puis finalement cette pensée-là elle est venue suite à cette fois-là, je me suis surpris à peut-être m'énerver ou me mettre en colère facilement suite à une petite engueulade du quotidien, tu sais, que tu peux avoir dans le couple. Parce que mon chemin de pensée, c'était de me dire, bah, attends, mais comment est-ce qu'on peut s'engueuler? Je dis n'importe quoi, mais pour des gouttes sur l'évier, alors qu'il y a des gens qui viennent de vivre ça juste à côté de manière beaucoup plus importante, et puis les personnes, elles étaient plus ou moins, si ça veut dire quelque chose, en train de gérer, tu vois. Et après, bah, y a ces gouttes sur l'évier qui viennent bousculer le quotidien, et puis ça m'avait peut-être mis en colère, m'avait énervé, enfin, ça avait activé certaines émotions de manière trop forte, je pense. Et ce qui m'avait été de me aider, c'était de me dire, bah en fait, non, la réalité, elle est là. Enfin, je veux dire, ma réalité, elle est là. Ça, c'est le quotidien, tu vois. Ce que j'ai vécu, c'était extraordinaire. Puis c'est une, je le fais pas de manière si consciente à chaque fois, mais cette séparation entre le côté extraordinaire de la situation qui m'aide, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah, je trouve intéressant comme conseil de s'engueuler
Engueulez-vous.
pour couper du boulot. Non, mais je trouve que c'est intéressant comme point parce que ça revient finalement à un peu un truc sécurisant parce que c'est connu ou de rentrer. Bah, là, tu parles d'une anecdote, mais bah, de revenir dans une routine, d'avoir justement ton chemin, ta musique, de te reconnecter à des trucs très très basiques. C'est généralement un peu ce qui revient dans les récits des gens voilà, qui expliquent comment ils se reconnectent au quotidien. Il y en a qui vont prendre une douche ou de revenir à des choses très très basiques. Ça aide à se reconnecter. Et puis, Cette remarque, je la trouve intéressante parce que c'est des. En consulte, moi je peux souvent entendre des gens qui un peu qui culpabilisent d'avoir une problématique parce que ailleurs, ben je sais pas, il y a des gens qui meurent, il y a la guerre, etc. Puis qui ont tendance à se dire, mais bon, finalement, moi, comment je peux me plaindre? Et je pense que c'est des sentiments qui sont tout à fait normaux. Mais comment. Donc toi, ta manière d'arriver à replacer ça, c'est de dire, ben voilà, ça c'est l'extraordinaire. La vraie vie, c'est ce que je vis tous les jours.
Et puis ce que tu dis, ça me fait penser, tu vois, les gens qui peuvent avoir tendance à dire, bah voilà, mais moi, comment je peux me plaindre par rapport à ce qui se passe dans l'actualité? Ça me fait sourire parce qu'une fois, j'avais eu un décalage qui était vraiment important que j'avais vécu, enfin vu, et qui m'a de nouveau aidé à prendre conscience de quelque chose qui se jouait. Je te donne l'exemple, c'était, j'en souviens très bien, c'était un jeudi soir, et je regardais ce qui se passait à la télé, et puis j'étais tombé sur un reportage de la Première Guerre mondiale. Puis alors les gars, Première Guerre mondiale, faut vraiment imaginer, tu vois, t'as les tranchées, enfin je veux dire, c'était un niveau de barbarie et de boucherie qui était relativement extrême. Tranchées, les gars, j'apprends qu'ils passent 3 jours peut-être dans l'eau jusque-là, en hiver, à attendre, à avoir peur. Enfin, je veux dire, plus que peur, ils étaient sans doute terrorisés. Moi, je me couche avec ça, tu vois, le reportage de la Première Guerre. Lendemain, vendredi, j'ai ma consulte en psychologie du travail, tu vois. Et puis, t'as une personne qui me dit, non mais, vous vous rendez compte, ma chef m'écrit des mails à 17h30, le vendredi, sur mon jour de congé. Elle fait exprès, elle vient me chercher, puis je. Moi, au fond de moi, de nouveau, tu vois, au fond de moi, je me dis, mais attends, on ne peut pas se plaindre.
T'es pas dans une tranchée
À
non
côté,
plus.
il y a le gars qui est dans sa tranchée, toujours en train d'attendre, tu vois. Et moi, alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ce que je me suis dit, c'est que finalement, il n'y a pas de compétition de la souffrance, si tu veux. La souffrance, elle est là, elle est réelle. Et puis, on peut en faire quelque chose, mais de là, vouloir la classer, la ranger, là, je trouve que ce n'est pas OK, tu vois. C'est comme, pour en revenir à la psy d'urgence, quand t'as un décès peut-être, puis t'as des personnes qui peuvent se dire, bah attends, moi je suis sa femme, enfin je veux dire, comme si on doit avoir un focus particulier, enfin, parce que c'est sa femme, puis à côté t'as, oui non mais moi je suis sa mère, puis après en fait t'arrives dans un truc de nouveau, compétition de la souffrance, qui doit souffrir le plus, puis on n'est pas là, la souffrance elle est là, que tu le connaisses de manière étroite, alors oui on a d'autres éléments à avoir en tête parce que oui, effectivement, ça vient t'appeler différemment, mais celui qui l'avait juste croisé une fois, le voisin de palier, enfin, je veux dire, il a aussi droit à sa souffrance, puis il doit pas la banaliser ou la minimiser par rapport à d'autres personnes, tu vois. On peut
Ouais,
en faire
ça c'est
quelque chose.
intéressant parce que j'ai eu plusieurs fois des gens qui me disaient suite à je sais pas un décès peu importe la cause qu'ils se sentaient pas légitimes de se sentir triste ou d'être en deuil parce que c'était pas quelqu'un de leur famille, c'était une amie par exemple. Et ouais, ça je trouve que c'est important que tu le précises parce que tout le monde a le droit, enfin en fait c'est pas que tu as le droit, c'est que tu vis les choses comme tu les vis. Après, il y a peut-être une fine nuance, enfin les deux peuvent être intéressants, autant de valider qu'il y a quelque chose que tu vis puis que c'est une souffrance, typiquement ben, les mails à 17h30, et en même temps ben, utiliser n'importe quoi d'autre, hein, la souffrance d'autres personnes comme ça, pour relativiser. Et ça peut être intéressant d'avoir ces outils, mais seulement si on valide que voilà, il y a des choses qui ont le droit de nous heurter. Et en même temps, après prendre un pas de recul, puis se dire oui, ok, bon, bah, ça me heurte, mais je pourrais vivre pire. Finalement, il y a toutes les autres choses dans ma vie qui vont bien, et puis ça permet de relativiser.
Ouais, c'est clair. Bah après, bah, faut pas non plus tout mélanger. Parce que, il y a bien sûr les endeuillés primaires, tu vois, avant on parlait de victimes primaires, maintenant on essaie d'enlever cette étiquette qu'on colle aux gens, tu vois, les impactés, les impliqués primaires, la famille directe, bien sûr, comparé aux impliqués secondaires, ceux qui entendent le récit d'une situation, etc. Donc oui, il y a des classification entre guillemets qui existe, mais comme tu dis, enfin je veux dire, tu peux pas empêcher une émotion d'être présente. L'émotion, c'est une amie, hein, à la base, c'est un indicateur qui est là pour te montrer que tu as un besoin qui se cache quelque part. Donc que tu connaisses la personne ou non, là on parle de besoin, c'est fondamental, tu vois. Donc il y a quelque chose à faire de ça.
Tu parlais aussi de demander si les gens veulent un accompagnement. Moi, ça me fait écho. Je m'étais fait casser la gueule. Bon, ça remonte maintenant par trois types.
Je suis désolé encore d'ailleurs.
J'en suis remis, hein, mais justement, il y avait eu cet incident, donc oui, qui peut être très choquant. Alors, j'avais eu, pas trop de séquelles, une dent cassée, des bleus. Donc, je m'en suis pas mal sorti. Mais je me rappelle, j'étais allé à la médecine des violences pour faire le constat, etc., au CHUV. Et puis, je trouvais qu'ils étaient... c'était bien, ils m'avaient proposé un suivi psychologique, puis je trouvais qu'ils étaient assez insistants. Et moi, j'en ressentais pas le besoin. Puis il y avait un peu un côté, ah ouais, mais tu dis que t'en as pas besoin, mais t'es un peu dans un déni. Donc je trouve intéressant de dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un suivi psy après avoir un vécu choquant. Ou comme il y a des gens qui vivent des choses qu'on pourrait juger pas très choquantes, mais que ça impacte profondément, comment est-ce qu'on peut détecter qu'un événement choquant, on va garder ce terme, nous impacte plus que ce qui devrait, entre guillemets, puis que ça devient quelque chose peut-être un peu pathologique, et que du coup c'est nécessaire de demander de l'aide?
Ouais, il y a plusieurs choses. Puis merci pour cette question, parce qu'elle est vraiment intéressante. Il y a premièrement, une info qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que la grande majorité des gens qui traversent un épisode potentiellement traumatique, ce qui ne sera pas forcément traumatique, mais potentiellement traumatique, s'en remettent. Et tu vois, il n'y a pas forcément tout le monde à inscrire en thérapie ou autre. Enfin, la majorité s'en remettent, bien sûr. Alors, il y a des chemins plus ou moins sinueux pour y arriver, je suis bien conscient. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que on sait que dans un état de choc psychologique, donc le choc psychologique, tu vois, dans les... Allez, chaque fois que je donne des chiffres, il faut toujours prendre pas mal de...
C'est comme au présidentiel, on balance des chiffres.
Je balance des chiffres,
faut fact-checker ce que derrière. Vous voulez.
Mais non, il faut prendre un petit peu de marge. Mais tu vois, dans les 48 premières heures, quand la personne peut être en état de choc psychologique, on sait aussi qu'il y a une majorité des personnes qui ressentent pas forcément exactement ce qui se passe en eux, tu vois. Exemple... il y a des douleurs que tu peux ressentir plus tard, il y a des ressentis que tu peux sentir plus tard. Si tu demandes à une personne qui vient de vivre, je sais pas, un accident de la route, grand exemple, un peu basique, est-ce que vous êtes blessé? Dans l'état de choc, elle peut avoir tendance à te répondre non. Puis plus tard, quelques minutes, heures plus tard, elle découvre des douleurs importantes, peut-être même invalidantes, mais le stress a pris le dessus. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue au milieu entre le personnel soignant ou les accompagnants qui te proposent et qui peuvent même parfois avoir tendance à insister parce que peut-être qu'ils savent que la personne n'a pas forcément accès à toutes ses ressources pour te répondre. Mais d'un autre côté, il y a des gens peut-être qui forcent ou qui imposent un accompagnement. Et là, pour le coup, c'est important de savoir à quel point c'est pas OK et déjà pour les limites de la personne. Et finalement, même quand l'accompagnement se fait, quand la personne n'a pas souhaité ou manifesté ce besoin-là, en général, on s'en rend vite compte parce que ça marche pas, quoi. Enfin, ça prend pas le lien. On sait que le lien en accompagnement thérapeutique fait plus que la moitié du chemin. Là, franchement, il est très compliqué, voire quasi impossible à créer, tu vois. Une fois, j'avais dû accompagner trois personnes et si tu veux, il y avait une personne qui avait quatre personnes. Il y avait une personne qui a été directement confrontée à la scène en question. Puis les trois autres, c'était des amis de cette personne.
Ok.
Et en fait, il avait été demandé aux amis si le groupe avait besoin d'un accompagnement psy, si tu veux. Je sais pas si tu veux. À ces trois personnes, est-ce que vous avez besoin d'un psy d'urgence pour ventiler, déposer, obtenir quelques conseils, etc. Ces trois personnes avaient dit oui. Mais elles avaient dit oui, peut-être un petit peu plus en tant qu'amis. T'sais, oui, il faut quelqu'un pour venir l'aider, elle, tu vois. Et puis, en l'occurrence... elle n'avait pas forcément manifesté ce besoin, si tu veux. Donc, moi, j'arrive, on te dit oui, ils ont accepté l'aide, mais finalement, tu ne sais pas exactement qui dans le lot a accepté l'aide. Et c'était un échange inconfortable parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne prenait pas, je ne comprenais pas pourquoi j'étais bousculé, un peu envoyé dans les cordes, dans les questions qui étaient censées être bienveillantes, tu vois, pour accompagner la personne. Et puis, j'ai profité au fait d'un moment où la personne allait aux toilettes pour demander... peut-être de manière un petit peu individuelle aux gens qui avaient demandé l'aide, en fait, qui avaient demandé le besoin. Puis à ce moment-là, je m'étais rendu compte que c'était les autres plus que la personne concernée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Puis je me suis... Alors, ça n'a pas fait Eureka, mais ça m'a permis de comprendre pourquoi ça prenait moins bien, tu vois.
Ouais, alors ça, c'est super intéressant parce que ça se trouve, ben, du coup, en psy d'urgence, mais dans toutes les consultations psy, où ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, la conjointe qui envoie. C'est vrai que c'est voué à l'échec, généralement. Donc, d'où l'importance de comprendre d'où vient la demande dans nos suivis. Je viens à la psychologie du travail, parce que c'est là où d'où t'es parti avec le master. D'où c'est venu ? Parce que ma petite théorie des gens qui font psycho du travail, tu me diras si ça te parle. Ça, c'est la théorie, théorie choc. Non, pour moi, les psys du travail, c'est ceux qui voulaient faire psychoclinique, qui en fin de bachelor, ils ont paniqué parce qu'on leur a présenté que c'était compliqué, le chômage, les machins, et qui se sont dit, je veux avoir un meilleur salaire, je veux avoir une place, donc je vais aller en psycho du travail. Est-ce que c'était ça ta motivation ou est-ce qu'il y en avait d'autres?
Ouais, la flemme totale. Clairement, non, il y a aucun autre exemple, aucune autre excuse, non. Non, alors, pour le coup, je comprends, c'est vrai que c'est des discours qu'on peut avoir tendance à entendre. Puis, la population aussi est différente en psy du travail. Là, je parle d'il y a 10 ans à peu près, donc je sais pas comment c'est aujourd'hui, comment ça a évolué. Peut-être que j'avais déjà l'impression que c'était un master un peu en essor, donc peut-être que ça a encore bien changé aujourd'hui. Mais quand tu regardes une classe de clinique versus une classe de master en psy du travail, c'est déjà différent en termes de taille.
Ouais.
Et puis, pour prendre un autre critère, déjà, la représentativité homme-femme était assez différente aussi. Il y a plus d'hommes en psy du travail.
Okay.
On s'approche de la moitié.
C'est rare. C'est vrai que pour situer dans une classe de psycho, nous, on était 20%, je crois, en clinique. Donc, 20% d'hommes.
Je pense que peut-être en termes de sociologie aussi, il y a peut-être des raisons qui expliquent tout ça. J'ai pas toutes les réponses, mais c'est vrai que personnellement, moi, ce qui me plaisait en psychologie du travail, c'était le côté, le mot est peut-être mal choisi, mais concret, tangible, quoi. Je peux bosser pour une entreprise, je peux bosser dans ou pour des entreprises. Et puis, je voyais vraiment ça comme une activité peut-être un peu plus rapide, efficace. Enfin, je peux pas dire efficace parce que ça voudrait dire que la clinique ne l'est pas. C'est pas le mot que je voulais dire, mais vraiment, t'as des situations, t'as une entreprise. Moi, j'imaginais à la base, c'est pas ce qui s'est fait finalement, mais j'imaginais peut-être plutôt travailler avec des RH, enfin directement dans les ressources humaines. Puis moi, j'aimais bien ce côté où t'as peut-être des situations de difficulté qui arrivent. Tu fais de ton mieux pour aider la personne. Ensuite, il y a peut-être une autre situation, puis il y a un côté comme ça qui avance, qui enchaîne un petit peu, qui me plaisait. Et puis, de nouveau, si on remet ça dans le temps... quand tu dois faire ton choix, enfin en tout cas quand j'ai dû faire mon choix du master, je sais plus, je devais avoir 22 ans.
Ouais, 22, 23, ouais.
Et il y a pas mal d'idées préconçues, de mythes que t'entends, qui flottent un petit peu dans l'auditoire. Puis moi, le côté durée, tu sais, de la formation clinique, et comme tu disais, un petit peu peut-être de la galère qui allait suivre derrière, moi j'ai sans doute été attiré par la possibilité de travailler plus rapidement derrière. Et je pense que c'est ça qui m'a branché là-dessus. Et puis, c'est peut-être... Alors, marrant, je sais pas, mais j'avais l'idée de faire la psy d'urgence avant l'idée de faire la psy du travail. Alors qu'en termes chronologiques, il fallait que je fasse un master avant de faire la spécialisation. Et puis, je savais pas ce qui existait entre les deux, mais pour moi, je me disais qu'il y avait un domaine possible entre la psy du travail et la psy d'urgence, tu vois.
Okay.
Parce que je me dis qu'il y a forcément de l'urgence au travail aussi, quand on parle d'un décès.
Ouais.
On pense très vite à la famille, ce qui est juste. Mais il y a très souvent aussi des collègues, un employeur qui est impacté. Et puis, pour moi, c'était un peu un mystère. Que font les entreprises quand il se passe un drame, tu vois ?
Puis qu'est-ce qu'elles font, du coup ?
Y a des entreprises privées, il y a des organismes privés qui offrent ce soutien psychologique d'urgence aux entreprises. Puis là, tu peux organiser, déjà, assurer, valider et puis préparer ta communication parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la communication. Très souvent, les gens sont attendus au niveau du soutien apporté et on oublie, on met un peu de côté la communication. Or, 9 fois sur 10, c'est dans la communication que ça bug ou que ça peut pêcher un petit peu. Le soutien, finalement, il y a une part où c'est l'humain qui prend le dessus. Puis finalement, souvent, ça roule. Donc, on peut préparer cette communication. On peut aussi...
Donc, tu dis comment on communique à l'interne, voilà, un événement...
effectivement, comment l'entreprise communique là-dessus. Ouais. comment tu peux offrir du soutien peut-être à des collègues particulièrement impactés. Tu peux organiser peut-être des espaces de parole aussi, où tu donnes des informations psycho-éducatives. Voilà, peut-être que ces jours, vous allez présenter un certain nombre de réactions, elles sont parfaitement normales. Voici les bons conseils pour favoriser la bonne intégration de cet événement. Donc, il y a quelque chose à faire, si tu veux. Souvent, c'est bienvenu, de nouveau, c'est jamais imposé, mais c'est proposé. Souvent, j'avais l'impression que c'est bienvenu. Et puis, ça fait souvent écho aux situations où peut-être il y a eu un décès et il n'y a pas eu de gestion de crise. Et puis, on se dit qu'en fait, qu'on aurait pu faire mieux par le passé, quoi. C'est peut-être sans doute parce que l'entreprise ne savait pas qu'il existait des organismes pour ça.
Ouais, puis ça, je pense que c'est essentiel d'avoir des structures comme ça qui peuvent intervenir, parce que en consultation, j'ai entendu plusieurs fois, voilà, il se passe un truc, un décès au boulot, une crise cardiaque ou des choses comme ça, puis où c'est vraiment au colloque du lundi, voilà.
Petite info.
Monsieur X est décédé. Merci, au revoir, quoi. Donc, c'est clair que ça fait une énorme prévention, puis c'est beaucoup ça, finalement, là, tu mets le doigt dessus. C'est peut-être moins dans le soutien, mais c'est beaucoup en fait en informant, en faisant de la prévention avant, qu'on limite l'impact négatif derrière.
Puis tu as des actions symboliques que tu peux faire aussi, au niveau de l'entreprise, pour la famille. Enfin, il y a vraiment des tas d'actions qui peuvent être faites, faciles à organiser, faciles à mettre en place et qui font du sens, quoi, qui aident les gens. Ouais.
Une autre question que j'ai, qui est une critique aussi, pas sur la psychologie du travail, plus sur comment les entreprises considèrent la psychologie au travail et le bien-être au travail. Souvent, j'ai l'impression que le bien-être en entreprise, c'est plus un truc pour faire... Enfin, les entreprises le considèrent comme quelque chose qui fait beau sur le rapport annuel, en proposant des actions qui n'ont pas vraiment d'impact ou qui sont... Je sais pas, l'exemple qui me vient tout le temps, c'est la pleine conscience, faire un cours de méditation pleine conscience, puis ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose pour le bien-être de leurs employés. Alors, la méditation, c'est super bien, mais le problème, c'est que ça met beaucoup la responsabilité du bien-être sur la personne, sur l'individu. On ne parle pas de la structure qui est souvent la source première de problèmes. Et puis, donc j'ai souvent l'impression qu'il y a un peu des solutions comme ça, sparadrap. Toi, de ton expérience, c'est quoi qui amène un vrai plus en termes de santé des employés dans une structure?
Effectivement, le côté sparadrap, pour le coup, j'ai envie de dire que je l'ai vu. Tu as des entreprises qui placardent des valeurs, des missions à l'entrée, là, enfin, avec des mots-clés intéressants. Puis dans la réalité, c'est autre chose qui se produit. On va offrir aller 3 conférences, etc. Ouais. Puis ça roule, on peut cocher une case quelque part. On a fait nos mesures. Donc oui, peut-être au niveau, je sais pas, légal ou l'entreprise elle est carrée. Mais après, il y a tout ce qui est vraiment porté. Est-ce que c'est une mesure alibi ou est-ce que c'est vraiment une intention, que ce soit de l'entreprise, de la direction ou peut-être même à moindre échelle d'une équipe, tu vois? Quand tu as une personne vraiment qui porte, qui est soucieuse, qui envoie vraiment les gens vers ces mesures d'accompagnement et de soutien, vraiment, je pense qu'il y a une bonne partie du côté de l'employeur où il y a vraiment une énorme variabilité, tu vois. Après, il y a aussi une grande variabilité dans les mesures proposées. Alors, c'est vrai que souvent, on fait appel à des entreprises, je sais pas, de consultants, des cabinets externes, etc., parce que la compétence n'est pas forcément d'entreprise, puis c'est parfaitement compréhensible. Il y a aussi une grande variabilité dans la qualité de la prestation qui existe. Puis déjà là, tu as deux variables où il y a une grande variabilité, enfin, deux facteurs ou paramètres où il y a une grande variabilité, donc ça peut être excellent, être très porteur, ça peut même redresser quelque chose dans une entreprise, j'en suis convaincu. Et puis, à l'autre extrême, ça peut aussi servir à rien, coûter cher, puis presque même énerver parce que les collaborateurs ont envie d'utiliser cet argent autrement, tu vois. Mais malgré tout ça, moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Je pense qu'il y a des conférences qui peuvent être précieuses, ne serait-ce que pour apporter un changement, une réflexion, une prise de conscience. Il y a des cultures d'entreprise, il y a même des campagnes de prévention d'entreprise qui portent leurs fruits. Et puis, j'y crois vraiment.
Alors, bien sûr, hein, je pense que le problème, ce n'est pas les pratiques, mais c'est déjà quel poids on leur donne. Est-ce qu'on se dit, enfin voilà, on a un management super toxique, mais on va faire une conférence 30 minutes, puis c'est bon, tout le monde va aller bien, ou pas. Ou, tu parlais justement des valeurs, mais c'est ça, est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs, ou est-ce que c'est juste des mots qui font bien quand on les poste sur LinkedIn, et puis derrière, en fait, on fait tout l'inverse. Donc c'est clair que c'est des choses qui peuvent avoir un gros impact, mais il faut qu'elles soient vraiment portées comme un projet, pas simplement une façade publicitaire.
Puis là, là, on parle de la partie entreprise, ce que l'entreprise pardon, fait pour le collaborateur ou pour la collaboratrice. Bah, il y a aussi toujours la partie de la personne, enfin, je veux dire individuelle. Comment moi, j'applique ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, comment je me protège, quelles sont mes limites, mes barrières. Donc, c'est là où tu peux pas mettre que la faute sur
Bien sûr.
un des côtés, tu vois.
Bien
Je pense
sûr.
que c'est assez mixte.
Oui, puis tu parlais des entreprises aussi de consulting qui ont des offres très variées et qui des fois amènent un truc complètement inutile parce que bah, voilà, ça permet de facturer beaucoup. Je sais pas, j'ai vu passer beaucoup, je sais pas si c'est toujours la mode, mais des tests de personnalité, notamment avec des couleurs, puis voilà, toi t'es type rouge, puis toi jaune, puis du coup pour mieux communiquer, alors que c'est des tests qui ont aucune valeur, aucune validité scientifique, qui sont facturés des milliers de francs aux entreprises, et je pense que ça peut être délétère aussi, parce que toi t'as l'impression que t'as fait un truc pour ton entreprise, puis en fait ça repose sur pas grand-chose.
Ces tests-là, bah, j'en ai entendu parler. Je fais attention à ce que je dis parce que je ne me considère pas comme un expert de ce sujet-là. Mais je pars un peu du principe que ça dépend, hein, tu vois, je serais pas fondamentalement contre, je suis pas vraiment pour non plus, mais je me dis ça dépend de la manière de, enfin ça dépend de ce que t'en fais, tu vois. Si tu dis oh, bon bah lui il est, comme tu dis, rouge bleu ou je sais pas, et puis que tu t'en tiens à ça, puis tu bouges plus là-dessus, ah non mais je peux pas de toute façon, toi t'es rouge donc c'est foutu, je dis n'importe quoi parce que je sais pas, bah ce serait vraiment triste et dommage quoi. Par contre si tu dis ah bah ça me permet d'avoir des éléments de compréhension pour voir dans quelle galaxie il peut se situer avec plein de précautions, tu vois. Bah là, ça devient intéressant parce que
Ouais, est-ce
voilà,
que c'est
ça dépend
utilisé
une fois de
pour...
plus ce que t'en fais. Et excuse-moi,
Non, non.
pour moi, ce qui fait du sens, c'est comment t'intègres ça dans la manière d'accompagner ou peut-être même d'engager, hein, parce que c'est souvent une question d'engagement, ces tests-là, une personne, plus que de tout miser sur l'outil en soi, tu vois.
Bah, je pense que, comme tu dis, c'est intéressant si c'est un outil de communication, c'est-à-dire qu'on utilise ça, puis ça permet un dialogue sur, voilà, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, ou bien si on l'utilise comme une étiquette, un petit peu comme, je sais pas, du tarot, quoi. Le tarot, ça peut être un super outil. Après, voilà, chacun a ses croyances sur est-ce que ça dit la vérité, l'avenir, tout ça. Moi, je trouve que ça peut être un super outil. Parce qu'il y a un symbole qui sort et puis ça permet de dialoguer, de dire ah mais toi ça t'évoque quoi par rapport à ton projet, s'il y a ça qui sort, qu'est-ce que ça te fait réfléchir? Ça peut être super utile comme ça peut être très délétère si on le prend, voilà, ça c'est la prédiction que mon projet il va échouer, puis du coup ça fait un peu une prophétie autoréalisatrice.
Ouais, clairement.
Je vais te poser quelques questions d'abonnés. J'ai fait un petit sondage sur Instagram en disant que j'accueillais un psy d'urgence. J'ai pas mentionné ton nom parce que sinon j'allais avoir une pluie de questions, d'interventions. Donc j'ai juste dit psy d'urgence. Puis il y a deux, j'ai gardé trois questions. Donc bon, voilà, tu réponds comme tu peux. Une première, c'était alors très vague, hein, mais comment mettre des limites au travail? Alors on n'a pas de contexte, c'est très vague, mais est-ce que tu as un conseil par rapport à ça?
T'avais présenté en psy d'urgence ou psy du travail
Psy
aussi?
du travail
Ah
et
oui.
d'urgence.
Comment mettre des limites au travail? Bon bah, ce que j'imagine, enfin ce que je, comment je, enfin la manière dont je comprends cette question, c'est voilà des limites à tes limites à toi. Comment préserver ce qui se passe de ton côté de la table par rapport à, je sais pas, si t'as un chef ou une chef qui est un peu toxique ou qui déborde, ou bien si le travail vient te réveiller la nuit ou te préoccuper le soir, etc.
Ou l'exemple des emails à
Ouais.
17h30.
Bah ça je pense que ce sera vraiment bah réponse de psy, hein, dépendant d'une personne à l'autre, il y en a qui seront, peut-être ça peut paraître interdit de le dire, mais il y en a qui seront pas du tout dérangés. Enfin, je dirais, il y en a chez qui ça sera OK de répondre à un week-end, Pour d'autres, c'est hyper intrusif, puis c'est pas OK, ça se fait pas. Je pense que ce qui va varier, ça sera de voir l'impact que ça a sur ta santé, ta vie privée. Moi, je mets assez facilement la vie privée, la santé en numéro un, mais assez facilement la vie privée avant la vie professionnelle. Et c'est surtout de voir à quel point ça vient t'impacter, tu vois. Donc, si tu as des éléments, personnes, facteurs ou indicateurs qui viennent te préoccuper, bah, là, la question des limites, elle se présente parce que tes limites peuvent s'activer beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard que celles d'une personne. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'essayer de tout poser, alors par écrit, je sais pas, mais en tout cas dans ta réflexion, de se dire, bah, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, sachant que ce qui te convenait quand tu démarres ta carrière à 25 ans ou à 15 ans, pour ceux qui ont fait un apprentissage, bah, ça varie, tu vois. Il y a des choses où, tu sais, quand tu avais 20 ans, tu étais à fond, tu prenais tout, il fallait te montrer un petit peu ce dont tu étais capable. Le gars qui a 56, 57, etc., ses limites, elles ont évolué, puis c'est parfaitement OK, normal. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a eu un plus ou un moins, c'est parce que tu bouges aussi, tu
Donc plutôt vraiment déjà en prendre conscience soi,
vois. Ouais.
après aller le communiquer. Alors ça veut pas dire que ça sera écouté, respecté, mais c'est ce qui est en notre contrôle pour faire respecter ses limites.
Ouais, je pense que voilà, effectivement, c'est un bon résumé, mais pour en revenir à ça, c'est voir à quel point ça t'impacte et puis voir si la vie que tu souhaiterais mener est trop différente par rapport à la vie que tu as actuellement, par rapport à, je sais pas, ton temps pour tes passions, tes projets, ta vie privée. Si c'est complètement effacé ou rongé par le travail, bah là, oui. Ouais, essaie de les dessiner, ces limites. Ouais.
Une deuxième question, c'était dans quelle structure un psy du travail peut aller bosser?
Alors, je pense beaucoup, peut-être pas forcément toutes. Il y a une histoire de taille, je pense, de l'entreprise qui va faire que, au-delà d'un certain nombre, ça fait du sens, bah, avant de parler de psy, peut-être d'avoir des RH. Tu vois, si tu as une petite société, bah, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, il y aura un des employés qui fera office de RH, tu vois, mais pas forcément besoin d'une personne pour ça. Au-delà d'un certain nombre, bah, il y aura peut-être une équipe RH. Et puis, au bout d'un moment, il y aura peut-être besoin d'un psy ou d'une psy dans l'équipe RH, peut-être, ou en parallèle. Après, peut-être que pour les petites et moyennes entreprises, s'il n'y a pas cette compétence à l'interne, bah peut-être qu'ils peuvent la mandater ou l'appeler à l'extérieur. Donc moi, je pars du principe qu'il y a quasiment toutes les entreprises qui auraient tout intérêt à avoir un lien, en tout cas avec un ou une psy du travail. Je trouve ça assez optimiste de voir ça comme ça pour le psy du travail. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que très souvent, les psys du travail ne s'appellent pas psy du travail. Donc toi, tu as ton master, tu as ton titre, tu as un mot, hein, quelque part qui est plus ou moins officiel, d'ailleurs qui varie d'un pays à l'autre. Mais après, tu te présentes comme assistant RH, tu te présentes comme équipe santé, tu te présentes autrement. Donc très souvent, il y a aussi une part du métier, je pense, du psy du travail qui est glissée, cachée ou appelée différemment. Donc parfois, pour quelqu'un qui pourrait chercher un emploi, je ne chercherais pas forcément le hashtag psy du travail parce qu'il va peu le trouver, tu vois. Par contre, si tu regardes un petit peu ce que font les métiers autour de la santé au travail, bah très souvent, tu seras pas loin du tiers, quoi.
Oui, parce qu'après, ça peut être justement de la formation, de la prévention. Donc, ça pourrait être formateur santé ou je sais pas quel titre. Mais ok, ben ça, c'est une bonne astuce pour les recherches de travail qui est toujours une grosse question pour les psys.
Et il y en a qui tiennent à leur titre, je suis psychologue du travail et des organisations, c'est long, mais il y en a qui le notent tel quel. Puis moi, j'aime bien utiliser ce terme-là, effectivement, déjà pour le rendre vivant, quoi. Parce que si chaque fois on le glisse sous assistant RH ou, je sais pas, responsable RH, il y en a qui sont psy du travail de formation, et puis bah, le titre, au bout d'un moment, il disparaît, tu vois, c'est marrant parce que c'est presque une spécificité à cette bulle-là, parce que plein d'autres métiers où t'as ta fonction, t'as ton diplôme, puis t'es médecin, quoi, t'es avocat, tu vas pas dire, ouais, je suis spécifique. Tu utilises
Ouais,
ton
puis
titre, quoi.
des titres qui invisibilisent complètement, qui veulent rien dire, quoi. Ok. Bon, la troisième question, en fait, je pense qu'il a déjà répondu, c'était comment se protéger d'un environnement de travail toxique. Je pense que ça revient, la réponse à ça, c'est mettre des limites, puis comment on les met, c'est ce que tu nous as un peu expliqué.
Effectivement, puis peut-être le petit plus ici, ce serait de ne pas hésiter à appeler à l'aide. Enfin, je veux dire, ça va pas forcément toujours t'engager sur 15 ans de thérapie, sur des frais, etc. Parfois, tu as des solutions intéressantes, très concrètes, très parlantes que tu peux trouver rapidement. Voilà, je parlais d'une consultation de psy du travail, thérapie brève en quelques séances. Des fois, alors tu vas pas changer ta vie, mais ça te permet de comprendre certaines choses. Donc, chercher de l'aide, vraiment, je pense que ça peut être très utile pour avoir un autre focus.
Oui, puis maintenant, il y a une obligation, sauf erreur, d'avoir une personne de confiance, qui est généralement, c'est pas forcément un psy, mais ça peut, pour les entreprises qu'on peut contacter, qui sont externes à l'entreprise, qui peuvent aussi guider.
Exactement, ouais. Souvent, c'est une bonne porte d'entrée, parce que l'accès, il est gratuit, offert, confidentiel, anonyme, mais t'as pas 40 séances offertes, si tu veux. C'est souvent un endroit où tu peux déposer ta problématique, soit obtenir quelques pistes de réflexion qui peuvent te convenir, ou alors obtenir une bonne orientation vers qui pourrait t'accompagner dans ton problème.
Là, on arrive un peu sur la fin de l'interview, puis j'aimerais que tu nous parles d'un projet qui est à venir. Déjà parce que je trouve que le projet est super cool, le nom est super bien trouvé. Donc c'est un projet qui s'appelle Les Timbrés, enfin Timbrés E-S. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu nous mijotes?
Je te remercie parce que je suis content de parler de ce projet. En même temps, je te remercie pas parce que du coup, ça va m'obliger à accélérer le truc, tu vois. Parce que là, j'étais tout seul à penser à ça, donc je pouvais prendre mon temps. À la base, c'est un projet un peu de développement personnel. Tu vois, j'aime bien aussi ces lectures que tu peux lire de ton côté pour aller mieux, travailler sur toi, etc. Comme il y a énormément de livres là-dessus, tu vois. Et en fait, je me suis dit une fois que j'aimerais bien pouvoir mettre en relation deux personnes qui recherchent à faire un travail sur elles-mêmes, un travail un peu de développement personnel, si tu veux. Finalement, ces deux personnes n'iraient pas forcément chez un psy ou iraient écouter justement peut-être des podcasts comme celui-ci ou lire des livres comme, je sais pas, L'homme qui voulait être heureux, enfin, il y en a plein.
Ouais.
Donc des personnes qui sont en recherche de développement personnel, puis j'aimerais bien pouvoir les mettre en relation pour que les deux personnes puissent se tirer vers le haut, si tu veux, s'entretenir, où il y a une part où tu écoutes les difficultés de l'autre, où tu peux lui donner des conseils, mais en même temps où toi aussi tu peux partager tes difficultés à quelqu'un. Ça, j'aimais bien ce côté-là, et par-dessus, j'aimais bien le côté de pouvoir faire ça par écrit, si tu veux. Donc le projet timbré, ce serait de mettre en relation deux personnes par écrit. Donc par écrit, je parle vraiment d'une lettre, si tu veux, d'une lettre que tu écris manuellement, manuscrite, pardon, que tu envoies à la poste. Truc qu'on n'a plus fait depuis, je pense, 2004, 5, 3, je sais pas. En tout cas, depuis un bon moment, c'est même plus dans quel ordre mettre les destinataires, etc., tellement qu'on le fait plus. Donc j'aimais bien ce côté où tu écris tes problématiques, tes conseils pour l'autre. Déjà, rien que l'écriture, puis c'est prouvé, hein, c'est même utilisé dans certaines thérapies. Ça te force à réfléchir aux mots que tu utilises. Si t'as foiré ta feuille, tu la recommences, donc tu remets en mots, il y a quelque chose de narratif là au milieu. Et tu peux être même un peu fier de ce que t'as écrit. Tu l'envoies, et puis t'attends. T'attends 3 jours, peut-être même 3 semaines pour obtenir ta réponse, parce que y a un gars qui va recevoir ta lettre, la lire, prendre son temps à lui, son rythme, pour te répondre. Puis j'aimais bien ce côté où tu peux être un peu excité, t'es de recevoir ta lettre, ton courrier, tu l'ouvres, puis tu lis ça, puis t'as 3 pages d'un gars qui a pris ce temps pour toi. Et puis j'aimais bien parce que ça sort un peu de tout ce qu'on voit maintenant avec l'immédiateté de nos appels, la rapidité des réponses qu'on doit offrir sur, je sais pas, Instagram, WhatsApp, etc. Là, il y a une forme de lenteur, il y a le côté manuscrit, et puis en plus de tout ça, j'aurais bien voulu que ça se fasse de manière anonyme pour que ce soit plus facile de se livrer un petit peu, si tu veux. Donc là, au milieu, t'as deux personnes qui s'écrivent des lettres, et en fait ils vont écrire un intermédiaire qui est psy.
Donc toi, en l'occurrence,
moi en l'occurrence, qui va lire l'échange. Donc c'est su, hein, je veux dire, il y a des règles du jeu que les gens signent pour démarrer l'échange. Le psy lit l'échange, comme ça permet de peut-être d'offrir des exercices, des pistes de réflexion ou de recadrer un petit peu si tu as une personne qui dérive avec, je sais pas, des propos inadaptés. Premièrement, tu peux ne pas envoyer la lettre, comme ça ça sécurise, ou bien tu peux revenir vers celui qui l'a écrite. Et puis, vraiment ce côté, tu as un intermédiaire qui lit, puis qui peut cadrer, guider l'échange, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est via l'intermédiaire que du coup ta lettre devient anonyme, parce que toi, t'écris au psy, le psy t'identifie et renvoie la lettre à la personne concernée. Et les deux ne se connaissent pas, si tu veux. Et ça, je trouve que c'était un gros plus. C'est un projet, à l'heure actuelle, qui est à l'étape de réflexion, on va dire, avancée, parce que ça fait un moment que je réfléchis à ça, mais je n'ai pas encore testé cet échange-là. Prochaine étape pour moi, ça sera l'étape un peu pilote, tu vois, où il suffira que je trouve deux personnes pour les mettre en, pour tester. Puis en fonction de ce que ça donne, je pourrais corriger puis lancer le projet. Et puis, bah, comme tu le disais, tu l'as utilisé le terme tout à l'heure, mais le nom que je voulais donner à ce projet-là, c'est timbré. Tu vois, vu que tu es dans la logique de l'enveloppe, du timbre, etc. Un peu de la psychologie. Moi, j'aime bien utiliser les termes un peu caustiques, comme ça, rigoler, plaisanter. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de rigoler, tu vois, en psychologie. Les timbrés, quoi. Et puis, finalement, bah, c'est pas toi qui es timbré, mais c'est l'enveloppe. Et puis, tu as un petit logo, petit slogan. Je pense qu'on peut vraiment lancer quelque chose. Là, pour l'instant, j'ai juste ouvert la page Instagram. Donc, il n'y a pas encore de followers, de publication. J'ai juste un peu shotgunné le titre de la page, si tu veux.
Ouais.
Puis après, j'ai lancé quelque chose. Donc, la page s'appelle timbré.e.s, tu vois, en langage inclusif. Puis le e, bah, je dis comme ça, mais il n'y a pas d'accent aigu. Donc, c'est timbre.e.s. Voilà.
Ça, je mettrai le lien du coup dans les notes du podcast, aussi sur la vidéo YouTube. Donc, les gens pourront te contacter s'ils sont intéressés par ce projet. Ils pourront te contacter sur cette page avec un message privé. Donc voilà, ce sera les premières personnes. Est-ce pour l'instant c'est un truc tu te dis c'est un service gratuit ou est-ce qu'il y aura une participation financière? Comment tu alors c'est peut-être pas encore
Ouais, bah
certain.
c'est une bonne question. C'était un point de réflexion qui m'a un peu fait caler parce que je savais pas comment faire à ce niveau-là. Avant toute chose, puis enfin, n'oublions pas que moi je fais juste ça vraiment pour le plaisir. Je vais pas quitter mes jobs pour faire que ça. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment si ça peut aider deux personnes, ce serait déjà pas mal. Pour l'instant, vu que je suis dans une phase pilote, je vais tester de manière, je pense, gratuite avec les premiers qui voudront bien se lancer. Et puis, selon comment ça évolue, si un jour ça prend un peu plus, bah, je vais devoir quand même rémunérer le temps que je vais passer là-dessus, tu vois, parce qu'il y a quand même du temps là derrière.
Bien sûr.
Et c'est peut-être un peu naïf, mais pour l'instant, je suis dans un système où je vais peut-être plutôt suggérer des prix libres, si tu veux. Un peu comme au théâtre, à Vidi, là, où t'as des prix suggérés. Puis après, la personne met ce qu'elle peut ou ce qu'elle veut, tu vois.
Ouais, puis ça, ce sera du coup dépendant en effet de combien de temps ça te prend. Si
Ouais.
tu vois que tout d'un coup, les gens,
Ouais, c'est
ils mettent
ça.
pas 3 semaines pour se répondre, mais c'est du journalier,
Ouais.
ça variera aussi, ça.
Ouais, donc c'est un des paramètres, voilà, je me dis. Pour l'instant, je suis dans une logique prix libre, puis on verra bien.
Trop bien.
Ouais.
Mais ouais, en tout cas, normalement, donc c'est pour 2024. J'espère, enfin, je me réjouis de voir ce projet voir le jour, parce que je pense que c'est. Ouais, ça amène un truc qui est pas du tout présent. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Puis, on est plus, en effet, sur la mouvance un peu USA où tu vois là, fleurir des services WhatsApp où tu as un petit souci, paf, tu peux contacter ton psy directement
Ouais.
sur WhatsApp puis avoir une réponse dans les 5 minutes qui, selon moi, voilà, amène pas du tout l'autonomie de la personne, ce qui est quand même un des objectifs numéro un dans un projet thérapeutique. Donc je trouve vraiment cool comme idée.
Merci.
On arrive gentiment au bout. Je voulais te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024, vu qu'on est encore au début.
Bah, merci déjà pour la question. Et ce que tu peux me souhaiter, c'est le courage pour bah, démarrer les timbrés,
Ouais.
pour les accompagner peut-être aussi. Parce que là, justement, j'ai été souvent dans cette réflexion assez longue et lente, on va dire, mais maintenant j'ai envie de tester. Me souhaiter. Bah, ouais, je pense que là, enfin, le job que j'ai actuellement à 50% est relativement récent, donc me souhaiter peut-être de continuer que ça se passe bien. Les activités aussi indépendantes bah, qui ont bien démarré, on va dire, bah, qu'elles puissent continuer. Et pour sortir un peu de la sphère professionnelle, bah, en termes de vie privée, bah, j'ai de la santé, ce serait pas mal. Pour l'instant, ça roule, donc continuons comme ça. Et puis, me souhaiter de continuer à tenir mes résolutions. Là, tu vois, on est le 23, 4, 5 janvier, 25 janvier par là, je le tienne. Donc, c'est déjà un exploit.
Ah, c'est déjà pas mal. C'est comme Christian Constantin, je te souhaite la santé, et puis le reste, c'est toi qui
Ça me va.
Mais ouais, bah écoute, merci. Je te souhaite déjà tout ça. Merci pour ta participation. Pour les gens qui suivent le podcast ou la vidéo, peu importe où vous regardez, si Mathieu vous a titillé dans votre curiosité ou si vous cherchez un accompagnement, je rappelle qu'il est aussi, il a une pratique aussi indépendante. Donc, je mettrai évidemment toutes les infos de contact, etc. Que ce soit pour un accompagnement en psy du travail ou autre, plutôt en thérapie brève, peut-être plutôt dans ces mouvances-là, je mettrai tout ça, donc n'hésitez pas à le contacter, il est à QI. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt aussi un chouette endroit, donc c'est plutôt pas mal quand on sort d'une séance de psy, de pouvoir aller au bord du lac, méditer sur ce qui vient de se dire, donc voilà, moi, je te souhaite le meilleur.
Merci.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.